Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour à tous, bon mercredi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette avec vous pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Ben, le mois de mars est bien installé ici au Québec. C'est un mois long, hein? On dirait que ça n'arrête plus de finir. On attend le printemps qui se fait attendre. On dirait que les teints se verdissent aussi tranquillement et le taux d'énergie baisse. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'envolent sous le soleil pour une ou deux semaines. Mais si c'est bon pour le moral d'aller prendre une pause au soleil, ça peut comporter quelques risques pour la santé. Chaque année, entre 20 et 50 des voyageurs canadiens et québécois reviennent de l'étranger avec une maladie tropicale. Souvent, qui n'a pas beaucoup d'impact, mais parfois qui peut être plus grave. Juste pour vous donner un chiffre bien concret, 1200 Canadiens chaque année reviennent à la maison avec la malaria. Donc, en deuxième partie d'émission, Dr Dominique Tessier, directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage, sera là pour nous donner quelques outils afin de voyager en bonne santé. Aussi vous dire que, et on en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec Anne-Laure Marcadet, elle de l'Appui Montréal, il y a des proches aidants, il y en a beaucoup au Québec, en plus d'un million du côté de proches aidants, de personnes aînées. On nous dit aussi que d'ici 2030 au Québec, une personne sur quatre sera considérée comme proche aidante. C'est un rôle qui est exigeant sous plusieurs angles. Plusieurs angles, oui, que ce soit d'un point de vue qui est personnel, qui est financier, un point de vue médical aussi. On le sait, la santé des proches aidants est souvent affectée et ça ne vient pas avec un mode d'instruction. On choisit d'être proche aidant. Parfois même, on ne le choisit pas parce que ça vient de soi. Et par la suite, on apprend au fil des défis qui nous sont présentés. Les ressources ne sont pas toujours présentes, pas toujours évidentes. L'Association des bibliothèques publiques du Québec a voulu soutenir les proches aidants à leur façon en lançant tout dernièrement le service d'information biblio-aidant dans 520 bibliothèques. J'en parle à l'instant avec Ève Lagacé, elle, bibliothécaire et directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, et Anne-Marie Turgeon, commis du réseau des bibliothèques de Repentigny, également proche aidante auprès de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer pendant 7 ans. Ève Lagacé, bonjour.
Bonjour.
On est en train de joindre Madame Anne-Marie Turgeon au téléphone. On va débuter de notre côté la discussion pendant qu'on la joint. Je pense qu'elle est du côté de Repentigny à son boulot. Ève Lagacé, j'ai eu la chance de feuilleter les feuillets de Biblio-aidant qui offrent, entre autres, des suggestions de lecture. Et je trouvais que, bon, c'était de l'information qui était soutenue, de l'information qui était vérifiée. Et ça faisait appel à l'intelligence des gens. Donc, on accompagne, on soutient sans infantiliser. Et ça, je trouvais ça important de le souligner et assez précieux comme approche.
Oui, bien, en fait, il faut savoir, les proches aidants, comme vous le dites, là, vous l'avez dit en début d'émission, ils deviennent très souvent proches aidants du jour au lendemain. Ils sont confrontés à cette situation-là et ils cherchent souvent de l'information. Donc, on a trouvé de l'information qui peut les aider, en fait, en début de parcours, mais aussi on est allé plus loin dans cette recherche-là parce qu'il y a plusieurs proches aidants qui deviennent, en fait, des spécialistes de cette maladie ou de cette condition-là. Donc, on va un petit peu plus loin. Puis, il y a même, en fait, des bases de données. Là, on leur donne des pistes pour aller... ceux qui veulent vraiment aller vraiment plus loin, là, on leur donne des pistes pour aller chercher par eux-mêmes dans différentes bases de données.
Là, juste pour être bien certaine de comprendre, Anne-Marie Turgeon, vous êtes au bout du fil, je pense.
Oui, je suis là.
Bonjour. Parce que vous avez bénéficié, vous, de l'approche de Biblio Aidant. Pourtant, j'ai l'impression que ça vient d'être lancé. Et vous, Anne-Marie, c'est en 2007 que vous avez pu bénéficier de ces services-là. Donc, c'est nouveau ou pas nouveau, Ève Lagacé?
En fait, ça a débuté effectivement en 2007 dans trois bibliothèques du sud de la Naudière, donc Charlemagne, l'Assomption et Repentigny, qui ont lancé au tout début là, le programme Biblio Aidant. Et ça a connu un tel succès. Il y a eu des demandes de partout au Québec, tant de la part de proches aidants, d'associations de proches aidants et évidemment de nos collègues bibliothécaires qui voulaient eux aussi participer à cet effort-là. Et maintenant, tout le Québec peut offrir le programme Biblio Aidant sur l'ensemble de la province.
Anne-Marie, lorsque l'on est amené à accompagner un proche dans la maladie, dans sa réalité au quotidien, est-ce que d'entrée de jeu, notre réflexe, c'est de se tourner vers soit des livres ou vers notre bibliothèque de quartier?
Non, je dirais qu'on n'a pas ce réflexe-là parce que, en fait, dans les premiers instants, on l'a pas. C'est justement parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner.
Oui.
On ne sait pas à qui s'adresser. On est souvent assommé par le diagnostic qui vient d'arriver, qui tombe littéralement. Alors, moi, je pense que j'étais au bon moment, au bon endroit. Et j'ai eu ce réflexe-là d'aller me chercher de l'information, parce que pour traverser le désert, parce que c'est le désert qu'on va traverser, il faut être bien informé pour pouvoir aider notre proche et s'aider soi-même.
Oui.
Et on n'a pas le réflexe nécessairement. Ou si on a le réflexe, on se rend compte qu'on a besoin d'informations, on ne sait pas vers qui se tourner. On va des fois se tourner vers un intervenant en santé. Ils n'ont pas toutes les informations. Ils nous en donnent très peu. Même s'il existe énormément de services, c'est difficile de les avoir. Alors, se tourner vers la bibliothèque, c'est pas le premier réflexe, mais en deuxième lieu, oui, ça le devient. Parce que là, si on veut à tout le moins se renseigner sur la problématique, bien, chercher des volumes, des documents, oui, là, on s'en va vers la bibliothèque.
Mm-hmm.
Et avec ce service-là, bien, la recherche est déjà toute faite, là. C'est extraordinaire.
Oui. Ève Lagacé, Biblio Aidant est implanté dans 520 bibliothèques partout au Québec, mais en 2007, c'était tout petit, là, donc seulement trois bibliothèques. Ça venait de quel constat? Pourquoi on a voulu démarrer Biblio Aidant?
En fait, ça vient d'une demande du regroupement d'aidants naturels qui nous demandait de créer des outils à l'intérieur d'une bibliothèque. Donc, de leur créer un répertoire d'informations qu'on laisserait comme ça sur un comptoir. On a bien réalisé dès la première rencontre que les proches aidants ont besoin d'informations de façon criante, mais aussi qu'ils manquent cruellement de temps. Donc, on ne voulait pas leur laisser de l'information tout simplement comme ça, consulter sur place. On voulait qu'ils puissent repartir avec cette information-là à la maison, qu'ils puissent la consulter dans le confort de leur foyer.
Mm-hmm. Est-ce que les bibliothécaires ont été amenés à collaborer avec les professionnels de la santé pour élaborer les différentes thématiques, les différents cahiers?
Oui, et aussi avec les associations nationales de santé, donc la Fondation pour l'Alzheimer, Fédération québécoise du cancer, etc., là, donc toutes les associations nationales de santé, mais aussi nos collègues, certains collègues bibliothécaires du milieu de la santé
mm-hmm.
Qui ont collaboré avec nous.
Est-ce que des proches aidants ont été consultés?
Oui, via les regroupements de proches aidants.
Mm-hmm. Anne-Marie Turgeon, vous, en tant que proche aidante, vous avez consulté ces livres-là. Est-ce que toute l'information souhaitée était là? Si vous aviez eu à être consultée, est-ce que vous auriez amené votre grain de sel de façon différente?
Non, c'est assez complet. Confirmation, comme information, ça va même beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait souhaiter, que ce qu'un aidant peut souhaiter. Parce que oui, quand on s'adresse à la bibliothèque, on cherche des documents qui sont à la bibliothèque. Il y a les bibliographies, dépendamment de la maladie. Mais en plus, c'est qu'il y a toutes les adresses, les numéros de téléphone, des services gouvernementaux qui existent, des organismes communautaires qui peuvent nous aider autour. C'est beaucoup plus vaste que qu'une simple bibliographie. Ça va plus loin. Ça nous aide vraiment à entreprendre les démarches nécessaires pour aider notre proche aidant, savoir où aller, quelles sont les étapes à franchir une après l'autre. C'est vraiment beaucoup plus complet que ce que les aidants naturels, ce à quoi ils s'attendent là,
oui,
quand ils vont à la bibliothèque.
Et tellement complet parce que ça propose plein de types de ressources. Moi, j'ai feuilleté le feuillet sur le Parkinson. Il y a une proposition de film, une fiction. C'était important d'aller dans tous ces axes-là, Eve Lagacé?
Oui, oui. Pour qu'en fait, les proches aidants veulent pouvoir se retrouver à l'intérieur de ça. Donc, oui, on leur propose effectivement des documentaires, mais également de la fiction, autant pour des films, mais également sont des romans, des biographies, des récits de vie. Les gens veulent pouvoir s'identifier, en fait, soit des personnes réelles ou fictives dans l'intérieur de leur parcours.
15 thématiques ont été choisies. Parkinson, Alzheimer, déficience intellectuelle, cancer, maladie cardiovasculaire, et j'en passe. Pourquoi ces 15-là?
Par leur prévalence, en fait, leur prévalence dans la population, tout simplement. Puis, il y a deux types de thèmes, en fait. Là, il y a le thème proche aidant, en fait, qui s'adresse à tout type de proche aidant, toutes les thématiques, donc les maladies et conditions, et finalement, en fin de parcours, soins palliatifs et deuil, parce qu'il ne faut pas oublier cette étape-là du parcours de l'aidant.
Et aussi pour les familles, parce qu'il y a un feuillet sur l'autisme, donc davantage les enfants, donc on ne les oublie pas, parce que parfois, le parent est un parent, mais aussi un proche aidant de son enfant.
Exactement. Un proche aidant n'est pas nécessairement un proche aidant d'aîné. Un proche aidant va être un proche aidant autant auprès de son conjoint, de son parent ou encore de son enfant. Donc, faut pas oublier cette définition-là du proche aidant.
Mm-hmm. Anne-Marie Turgeon, vous le disiez tout à l'heure, les informations ne sont pas toujours fluides. On n'y a pas accès nécessairement facilement, mais il y a aussi de vérifier la pertinence des informations parce que sur le web, on peut trouver plein de choses, mais de savoir si ça s'avère vrai, ça peut être une autre difficulté. J'imagine que BiblioAidant facilite cette recherche-là.
Oh, définitivement. Bien sûr, il y a énormément d'aidants qui n'ont pas accès au web. Alors, ils se fient à des revues, des journaux. Hein, c'est souvent incomplet. Et pour ce qui est du web, ben là, c'est infini tout ce qu'on peut trouver. Et la démarche est beaucoup trop longue, beaucoup trop complexe. Il faut pouvoir se fier, alors qu'on sait ce qui est sur le web ou ce qui est écrit, ben c'est pas toujours nécessairement fiable.
Oui.
Alors oui, c'est certain que ça prend des spécialistes pour nous guider, pour pas faire des démarches pour rien. On n'a pas le temps de faire ça, là. Il faut savoir où on s'en va clairement.
Et au-delà du temps, je me demandais, Anne-Marie, est-ce qu'on a l'esprit, parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, il y a de l'angoisse, plein d'interrogations, parce que parfois l'avenir est difficile à prévoir. Est-ce qu'on a la tête de se plonger dans ces informations-là?
On n'a pas le choix. Par contre, c'est sûr que c'est pas la principale préoccupation. Beaucoup d'aidants vont pas aller chercher l'information ou ils vont y aller au moment où ils en ont besoin, pas en prévention. Fait qu'ils se retrouvent devant un mur, là, ils vont chercher de l'information. Fait qu'évidemment, là, on est prêt à aller n'importe où, prendre n'importe quoi. On n'a pas la tête à ça. On a besoin d'une aide qui est plus concise, précise. On a besoin d'un guide définitivement, parce que c'est sûr que notre tête est ailleurs. On pense à notre aidé 24 heures sur 24. On n'a pas le temps de faire d'énormes recherches et de créer des dossiers.
Oui, oui.
Cette aide-là est bien très précieuse.
Eve Lagacé, l'avènement de BiblioAidant dans les 520 bibliothèques, de quelle façon ça change le rôle du bibliothécaire?
En fait, ça le met en valeur. Parce que c'est du travail qu'on faisait déjà. On répondait déjà à ces questions-là. Mais là, avec BiblioAidant, ça nous permet de mettre en valeur toute la recherche d'informations qu'on fait et de mettre en valeur, en fait, tout le développement de collection, toutes les ressources qu'on a déjà. Je vous dirais, la plupart des ressources qui sont mises qui font partie de BiblioAidant étaient dans la plupart des bibliothèques. Par contre, c'est bien entendu, avec BiblioAidant, on ouvre la porte à de la confidence, du réconfort. Donc, ça, effectivement, mais ça, vous savez, on le fait déjà. Souvent, on fait un parallèle entre le travail en bibliothèque et le travail social. On fait souvent, on accompagne souvent nos citoyens dans différentes étapes de leur vie. Donc, on vient consolider ça, en fait, avec BiblioAidant.
On fait comment maintenant pour que la population québécoise soit tenue au courant de ce service-là?
Alors, c'est tout simple. Il y a biblioaidant.ca pour pouvoir aller consulter toutes les informations, tous les cahiers sont là. Il y a aussi la page Facebook de BiblioAidant où on peut être au courant de toutes les nouveautés et où on tient les gens au courant aussi de plusieurs nouveautés de la part des partenaires, organismes, associations qui font partie des ressources sur BiblioAidant. Et sinon, il faut consulter la programmation de chacune des bibliothèques participantes, là, donc de sa propre bibliothèque, pour voir comment BiblioAidant s'implante chez soi. Il y aura plusieurs conférences aussi au courant des prochains mois dans les différentes bibliothèques.
Est-ce que les organismes ou encore les professionnels de la santé seront outillés pour référer à BiblioAidant?
Oui, tout à fait. C'est la prochaine étape. On a déjà fait connaître, mais on va les outiller également pour pouvoir répandre la bonne nouvelle.
Et puis, 520 bibliothèques, est-ce que ça couvre tout le territoire québécois?
Non, on a encore un bon potentiel pour doubler le chiffre, en fait.
Donc, il y a encore des bibliothèques qui ne sont pas desservies.
Exactement. On a un potentiel jusqu'à 1070 bibliothèques au Québec, donc on a un bon potentiel d'expansion avec ce programme-là, mais ça ne saurait tarder. Il y a plusieurs bibliothèques qui nous ont déjà manifesté leur intérêt à joindre à nous pour ce programme-là.
De quelle façon l'information se rend? Parce que, l'information circule vite. Il y a beaucoup de recherches. On est à la fine pointe des poussées, des avancées scientifiques. Les cahiers seront, j'imagine, amenés à être modifiés à travers les années. Est-ce qu'on a pensé à cette démarche-là?
Oui, tout à fait. C'est une mise à jour annuelle. La prochaine étape est en fait une offre en anglais. Donc, d'ici la fin de l'année 2016, ce seront des cahiers en anglais qui seront offerts, mais il faut comprendre que c'est du contenu original. Les outils, les ouvrages, etc., c'est en anglais. C'est une recherche complètement indépendante. Mais sinon, ce sera une mise à jour annuelle pour les cahiers francophones. Donc, d'ici l'hiver 2017, il y aura une nouvelle mouture des cahiers qui sera mise en ligne. Donc, il y a déjà des équipes de bibliothécaires là, qui s'affairent à garder tout ça là, à jour.
Les cahiers sont gratuits.
Oui.
C'est important de le spécifier. Accessible via votre site biblioaidant.ca. Est-ce que l'on pense à des cahiers thématiques qui pourraient s'ajouter?
Pour l'instant, je vous dirais, ce sont ces cahiers-là, mais évidemment, on reçoit déjà, là, surtout avec le lancement du programme, là, on a reçu plusieurs demandes, mais on y va vraiment selon la prévalence là, dans la population des différentes maladies et conditions. Là. Donc, on va l'évaluer pour la prochaine mise à jour.
Anne-Marie Turgeon, vous avez manqué l'introduction tout à l'heure, mais je disais, être proche aidant, on le choisit pas toujours, et ça s'apprend un petit peu sur le tas. Avec les années, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes devenue une meilleure proche aidante?
Une meilleure personne, déjà, parce que je ne suis plus proche aidante, alors maintenant, moi, mais c'est certain qu'on devient une meilleure personne d'avoir eu à vivre ça. Dans mon cas, c'est certain qu'une personne âgée qui souffre d'Alzheimer, c'est pas du tout la même chose que d'avoir le diagnostic d'un enfant lourdement handicapé à la naissance ou d'un conjoint qui fait un AVC. C'est certain qu'avec toute l'information qu'on peut recevoir dans BiblioAidant ou autre, on est, oui, un meilleur proche aidant, mais on est encore un meilleur aidant pour soi-même.
Oui.
Parce que là, on apprend, donc la recherche est déjà tout fait, ça nous facilite l'accès aux services, aux ressources, ça nous aide à demander, mais aussi ça nous aide à prendre soin de soi. Et c'est que si l'aidant prend pas soin de lui, l'aidé, il peut rien faire tout seul, là. Il est vraiment en perte d'autonomie. Alors, c'est plutôt ça, je dirais. On apprend à prendre soin de nous en traversant le désert.
Et de savoir, d'apprendre au contact de BiblioAidant, est-ce que ça permet d'apaiser les angoisses qui sont liées à ce rôle-là et à tout ce que ça implique?
Absolument, parce que on se sent tout seul quand on se retrouve aidant naturel, et c'est humain de croire qu'on est les seuls à traverser quelque chose comme ça. On vit plein d'émotions, on se dit « bon, mais je dois être la seule, on n'en parle pas, on a honte, on se sent coupable, etc., etc. » Et quand on voit qu'il y a des livres, des documents, des films sur le même sujet, on se rend compte qu'il y a énormément de témoignages qui nous ressemblent. On se dit « ben mon Dieu, je suis pas toute seule à traverser ça. » Alors, ça nous aide énormément, ça nous donne un coup de pouce, ça enlève un peu le poids sur les épaules, de dire qu'on peut partager ça avec quelqu'un. Et bien évidemment, comme ça, le BiblioAidant nous guide vers des regroupements d'aidants, bien là, ça aide à socialiser, à nous sortir un petit peu de notre solitude.
Anne-Marie Turgeon, si être proche aidant permet ou peut permettre de devenir une meilleure personne, je trouve que c'est assez complémentaire avec le livre, qui souvent, au contact d'un livre, d'une histoire, d'un personnage, d'une information, on devient également une meilleure personne. Donc, Biblio-aidant est fait pour, je pense, pour une longue continuité, pour bien s'entendre avec la population québécoise. Important de souligner, coup de chapeau, vous êtes le coup de chapeau, Ève Lagacé et Biblio-aidant, bien sûr, cette semaine au Canal M pour votre contribution au bien-être de ceux dont le rôle est essentiel, souvent sous-estimé. Je vous le disais tout à l'heure, hein, lorsque l'on travaille bien, c'est important que ça soit souligné, et notamment pour ces personnes qui donnent énormément à notre société. Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, Anne-Marie Turgeon, vous êtes proche aidante également, vous étiez proche aidante et également commis du réseau des bibliothèques de Repentigny. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Dominique Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage et là pour nous parler de trucs, d'astuces pour voyager en bonne santé. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même un gros pourcentage de Canadiens, de Québécois qui reviennent en étant plus ou moins en forme suite à un séjour. Bon, évidemment, maintenant, on voyage partout dans le monde, mais au mois de mars, où on va principalement, du moins ici au Québec, c'est dans le sud, sous le soleil. Est-ce que les précautions médicales sont les mêmes? Parce que j'ai l'impression que lorsque l'on va dans des tout inclus, bon, on se dit, c'est pas si grave, j'ai pas besoin de mes vaccins ou de faire autant attention.
Ah non, pas du tout. Qu'on aille dans un tout inclus ou qu'on se loue soi-même une résidence et qu'on aille dans des conditions un petit peu plus modestes, il y a des choses de base qui s'appliquent à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les maladies qu'on peut prévenir par les vaccins, par exemple, comme l'hépatite A, sont liées à l'alimentation et à l'eau courante. Et qu'on soit dans un complexe touristique ou qu'on soit dans une maison privée, il va y avoir des risques en lien avec l'alimentation et l'eau. Donc, il faut se faire vacciner avant de partir. si on se blesse sur une plage, c'est le même risque de tétanos pour tout le monde, où qu'on soit. Donc, il y a plusieurs risques comme ça qu'on va devoir évaluer selon la destination et selon qui on est comme voyageur, notre propre état de santé à la base avant de partir. Alors ça, c'est pour les vaccins, premièrement. Et deuxièmement aussi, il y a des insectes. On s'en va dans un pays chaud, on s'en va sous le soleil, et les maladies transmises par les insectes sont de plus en plus importantes dans toutes les destinations soleil qui nous touchent principalement pour les voyageurs du Québec. On a parlé beaucoup, beaucoup de Zika récemment, qui est une maladie relativement bénigne si on pense pas être enceinte, mais le chikungunya, la fièvre d'angue, l'encéphalite, la fièvre jaune, beaucoup d'autres maladies, la malaria aussi, sont aussi transmises par des insectes, parfois le même insecte même, et il faut connaître ces risques-là et savoir comment se protéger.
Souvent, ce qui est déficient avant que l'on parte en voyage, c'est la préparation. Comment on devrait se préparer pour partir avec toutes les précautions nécessaires?
Bien, on peut déjà s'informer sur des sites qui sont reconnus. Voyage.gc, comme gouvernement du Canada.ca, est un bon endroit pour aller trouver de l'information par destination. Et on va trouver aussi à cet endroit-là des conseils pour les types de voyageurs. C'est sûr que tout le monde doit prendre certaines précautions, doit se préparer, doit lire un peu sur les risques dans les pays. Mais si on a déjà soi-même une maladie chronique, des problèmes de santé, de l'insuffisance rénale, un diabète, des problèmes du système immunitaire, qu'on a été traité récemment pour des cancers, il y a des précautions supplémentaires qu'on doit prendre. Le corps ne va pas nécessairement récupérer aussi rapidement. Des risques de complications pour des infections parfois banales vont être beaucoup plus grands. Et on va avoir des conseils particuliers pour ces gens-là. En plus, on va vouloir apporter une petite trousse. On ne veut pas être obligé d'aller consulter, voir un médecin, dépenser parfois des sous de façon importante pour avoir un traitement pour une diarrhée du voyageur. La diarrhée du voyageur, on parle d'un risque d'à peu près 50 % des voyageurs dans les destinations soleil. C'est beaucoup. Donc, on part avec déjà ces antibiotiques pour se soigner. Et bien sûr, des conseils d'avance pour savoir quoi faire pour ne pas l'attraper autant que possible. Et dans certains cas même, on va prendre un vaccin pour éviter la diarrhée du voyageur, surtout si on est plus à risque de complications à cause de notre état de santé.
Oui. Est-ce que l'on devrait se renseigner sur le système de santé du pays que l'on va visiter?
Les informations sont très, très, très sommaires, sont peu disponibles. Il n'y a pas un seul site qui peut nous donner toutes les informations sur les lieux. Par contre, c'est sûr que si on a un problème particulier, là, il existe certaines ressources. Par exemple, il va y avoir des ressources sur les dialyses qu'on peut avoir à l'étranger si on a une insuffisance rénale. Ça, il existe des cartographies assez bonnes dans le monde pour savoir où prendre rendez-vous et tout ça, parce qu'il faut prendre des rendez-vous pour avoir ces traitements en voyage quand c'est nécessaire. Mais sinon, on n'a pas de bonnes informations et ce qu'on recommande, dans le fond, c'est de faire tout ce qu'on peut pour ne pas avoir à consulter dans le milieu de santé en voyage.
Oui.
Les assureurs, il faut prendre une assurance voyage, bien sûr, parce que la régie de l'assurance maladie ne couvrira pas pour tout. Et les assureurs peuvent être une bonne ressource, par contre, s'il arrive quelque chose, d'autant plus qu'il faut les appeler d'avance pour faire préautoriser les paiements de l'endroit où on va consulter.
Ouais.
Et eux, ils ont des bonnes listes quand même d'endroits reconnus où on se trouve.
Bien, tout ça, ce sont des bons conseils parce qu'on part en voyage pour se reposer. D'abord, Dr Dominique Tessier, vous êtes directrice médicale des cliniques du groupe Santé Voyage. Merci beaucoup.
Bon voyage.
À vous aussi. Au revoir. Merci Jean-Sébastien de la Liberté derrière la console. C'est Marianne Paquette au micro. On se retrouve, nous, demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.